Nous sommes le samedi 10 mai 1941, en fin d'après-midi, sur la base aérienne d'Unstetten-Augsburg, où se trouvent les usines Messerschmitt, à 80 km de Munich. Le chef de la chancellerie du Parti national-socialiste, Rudolf Hess, l'adjoint du Führer, s'apprête à décoller à bord d'un Messerschmitt 110 expérimental, doté d'un réservoir supplémentaire, pour la plus étrange des équipées, qui le mènera jusqu'en territoire ennemi, en Écosse, pour une mystérieuse mission. Qui est Rudolf Hess? Ce haut dignitaire du parti nazi est sans doute l'un des moins bien connus si on le compare aux pontes du régime comme Göring, Goebbels, Himmler ou Speer. Et pourtant, il a été l'un des plus anciens fidèles d'Adolf Hitler, sans doute l'un de ses plus intimes, son dauphin, et le deuxième personnage du régime. Il est né en Égypte en 1894 et était destiné à succéder à son père à la tête de l'entreprise commerciale que celui-ci gérait dans ce pays. Mais le déclenchement de la Première Guerre mondiale en a décidé autrement. Après des débuts comme fantassin, il a gravi les échelons militaires jusqu'à devenir lieutenant et a obtenu son transfert dans l'aviation comme pilote de chasse. Dans l'Allemagne troublée de l'immédiate après-guerre, Rudolf Hess, très marqué par la défaite de son pays, s'engage dans les corps francs bavarois et adhère dès 1920 au Parti national-socialiste. C'est à cette occasion qu'il rencontre Adolf Hitler, qui a pris la direction de ce parti en avril 1921. C'est le coup de foudre. Subjugué, Hess se mettra immédiatement à son service, devenant son secrétaire particulier. Hess participe activement au putsch raté de Munich le 9 novembre 1923 et doit s'enfuir en Autriche. Mais il va revenir se constituer prisonnier pour partager le sort de son idole. Hitler est condamné le 1er avril 1924 à la peine relativement clémente de 5 années d'emprisonnement pour haute trahison. En réalité, il n'en fera que 13 mois et partagera son incarcération dans la forteresse de Landsberg avec Hess. Une incarcération au demeurant plutôt douce. Hitler et Hess occupent tous deux le même étage où les portes des cellules restent ouvertes, permettant aux détenus de circuler librement et de se retrouver dans une salle de conférence. C'est au cours de cet emprisonnement qu'Hitler a rédigé, avec l'aide de Hess, sa Bible du nazisme, Mein Kampf, mon combat. On ignore la part exacte que Hess a pu prendre dans l'élaboration de cet ouvrage, mais il est communément reconnu qu'il ne s'est pas contenté d'être un simple secrétaire et qu'il y a certainement apporté son érudition, notamment ses connaissances en géopolitique, acquises auprès du professeur Karl Haushofer, l'initiateur de l'idée de l'espace vital, Lebensraum en allemand. Fin décembre 1924, 11 jours après Hitler, Hess retrouve la liberté et son maître. Omniprésent aux côtés d'Hitler, il a sa totale confiance et dès 1925 devient son directeur de cabinet. Lorsque Hitler accède au pouvoir en 1933, c'est donc presque naturellement qu'il le désigne officiellement comme son dauphin. Totalement dévoué au Führer, Hess ne manifeste aucune ambition personnelle, à la différence des autres caciques du parti, mais aussi et surtout à la différence du secrétaire personnel qu'il a engagé en 1933, Martin Bormann, qui, sous ses apparences de simple bureaucrate insignifiant, tisse patiemment sa toile en sapant discrètement la réputation de son patron. Il est vrai que la passion de Hess pour l'occultisme, l'astrologie, les médecines parallèles et l'ésotérisme en déroutent plus d'un. Encore plus végétarien qu'Hitler, il arrive toujours au déjeuner organisé à la chancellerie ou à Berchtesgaden avec son propre repas, au motif que ces plats devaient avoir une certaine origine biologico-dynamique. Ce comportement avait fini par agacer Hitler, qui un jour confia à l'architecte Albert Speer, je cite, « Avec S, tout entretien devient une épreuve insupportable. Il vous importune sans cesse avec des choses désagréables et ne lâche pas prise. » bien que qualifié de conscience du parti, Hesse va ainsi voir son influence auprès d'Hitler progressivement s'éroder, et son rôle politique se limite bientôt à adresser chaque année ses vœux de Noël aux Allemands de l'étranger, ou, lors des cérémonies solennelles, à annoncer depuis la tribune l'arrivée du Führer, alors que son plus grand rêve aurait été de devenir ministre des Affaires étrangères, comme il l'a confié un jour à la cinéaste préférée du régime, Leni Riefenstahl. La déclaration de guerre de la Grande-Bretagne à l'Allemagne le 3 septembre 1939 consterne l'anglophile Hess, car pour lui, les Anglais sont des Aryens comme les Allemands, et les deux peuples ne devraient pas être ennemis. Cette guerre va accélérer la marginalisation de Hess et le déclin de son rôle au profit des stratèges militaires et en particulier de Hermann Göring, qui devient le numéro 1 dans l'ordre de succession en cas de disparition du Führer. Hess n'est plus que le numéro 2, alors que les deux hommes se détestent cordialement. Après la défaite de la France et la signature de l'armistice à laquelle il a assisté, Hess peut espérer que les Britanniques seront à leur tour disposés à négocier. Mais ce n'est pas le cas. La Grande-Bretagne, menée par l'inflexible Churchill, poursuit le combat. À l'automne 1940, le projet de débarquement allemand en Grande-Bretagne est abandonné. Et la bataille d'Angleterre a été perdue par la Luftwaffe, même si les bombardements allemands sur les villes britanniques se poursuivent. Mais peu importe pour Hitler, qui a désormais le regard tourné vers l'Union soviétique, qu'il a décidé de détruire. Hess n'ignore pas les projets de son Führer et s'en inquiète car dès lors l'Allemagne devra mener une guerre sur deux fronts. C'est alors qu'il songe à un projet extravagant, mais qui, s'il réussit, lui permettra de revenir en grâce auprès d'Hitler. Se rendre en Grande-Bretagne comme émissaire de la paix. Ainsi, par ce coup d'éclat, l'Allemagne pourra tourner toute son énergie vers son véritable ennemi, l'Union soviétique communiste, ou plutôt bolchevique, pour reprendre le vocabulaire de l'époque. Hess révélera 25 ans plus tard à Speer, alors qu'ils purgent tous deux leur peine après leur condamnation à Nuremberg, que ce dessein lui avait été inspiré en rêve par des puissances surnaturelles. Hess commence à élaborer son projet dès la fin de l'année 1940. Il compte se rendre en avion jusqu'en Écosse pour y rencontrer le duc d'Hamilton. Il ne l'a que brièvement entrevu à l'occasion des Jeux Olympiques de Berlin en 1936, mais cet aristocrate écossais connaît bien son ami Albrecht Haushofer, le fils du professeur Karl Haushofer. Hess pense que le duc d'Hamilton fait partie des germanophiles partisans d'un accord de paix avec l'Allemagne, et qu'en sa qualité de premier pair d'Écosse, il serait suffisamment introduit auprès du roi George VI pour contourner Churchill et influencer la Chambre des Lords, ce en quoi il se trompe lourdement. Hitler a formellement interdit aux dignitaires du régime de piloter un avion pour éviter qu'il soit abattu en vol. Mais Hess parvient à contourner cette interdiction en proposant à l'avionneur Wilhelm Messerschmitt de tester sur la base aérienne d'Unstetten-Augsbourg le dernier prototype du bimoteur Messerschmitt 110. Ce dernier n'y voit aucune objection. Hess est un pilote confirmé et surtout, on ne refuse rien au numéro 2 du régime. Pendant plusieurs semaines, Hess s'entraîne sur cet avion. Il conseille divers aménagements lui permettant de le piloter seul, avec un réservoir supplémentaire de carburant. Et il est 18h, ce samedi 10 mai 1941, lorsqu'il décolle en direction du nord de l'Allemagne pour un vol de près de 1400 km. Personne sur la base ne s'en est inquiété. N'avait-il pas déjà fait plusieurs vols d'essai sur cet avion expérimental? À plus de 600 km/h, Hess évite soigneusement les zones d'interdiction aérienne, puis survole la mer du Nord vers les côtes britanniques, avant de piquer vers l'ouest au nord de l'Angleterre. Il est brièvement pris en chasse par deux Spitfire, mais parvient à les semer et se rapproche de sa destination la propriété du duc d'Hamilton à Dungavell, au sud de Glasgow. Un poste d'observation côtier remarque l'avion et prévient la défense aérienne de la Royal Air Force, qui s'interroge incrédule. Que vient faire aussi loin de sa base cet avion qui manifestement ne dispose pas du carburant nécessaire pour retourner en Allemagne? Hess a prévu de sauter en parachute et de laisser son avion s'écraser au sol, car il ne tient pas à ce que les Britanniques puissent s'intéresser de trop près à ce modèle expérimental du Messerschmitt 110. L'avion s'écrase à 23h07, heure anglaise, près du village d'Eaglesham. Les militaires britanniques qui examineront l'épave auront la surprise de constater que l'avion n'a pas de munitions, qu'il n'est donc pas opérationnel et ne semble pas appartenir à une unité constituée de la Luftwaffe. Entre-temps, Hess, qui s'est blessé à la cheville, atteint le sol à une quarantaine de kilomètres de Dungavell, sur la propriété d'un fermier, David McLean, qui va venir à lui armé de sa seule fourche. Hess se présente alors sous l'identité d'un capitaine Alfred Horn et demande à rencontrer le duc d'Hamilton. Perplexe, le fermier va le conduire chez lui et, en bon britannique, lui proposer une tasse de thé en attendant l'arrivée des militaires de la Home Guard qui vont le conduire dans une caserne à Glasgow. Le duc d'Hamilton est prévenu de l'arrivée de ce mystérieux Allemand qu'il rencontre le lendemain. Aussitôt, Hess se présente sous sa véritable identité et lui expose la raison de sa présence. Il est venu, dit-il, pour sauver l'humanité et demande à rencontrer le roi pour négocier un traité de paix avec la Grande-Bretagne qui laisserait à l'Allemagne les mains libres sur le continent européen en échange de l'intégrité de l'Empire britannique. Pendant ce temps, en Allemagne, Hitler, qui se trouve alors à Berchtesgaden, où il doit notamment rencontrer l'amiral Darlan, reçoit dans la matinée la visite de l'aide de camp de Hess, auquel celui-ci a donné pour mission, avant son envol, de remettre une enveloppe au Führer s'il ne revenait pas au bout de 4 heures. Intrigué, Hitler ouvre la lettre et en commence la lecture par, je cite, « Mon Führer, quand vous recevrez cette lettre, je serai en Angleterre. » Hess lui explique le but de sa mission et conclut qu'en cas d'échec, Hitler n'aurait qu'à affirmer qu'il avait perdu la raison. Hitler est furieux et laisse exposer sa colère devant Göring et Ribbentrop qu'il a convoqué séance tenante. Certains historiens ont émis l'hypothèse qu'Hitler ait été parfaitement au courant de la mission de Hess, qu'il en aurait même été l'instigateur, mais sa réaction violente, confirmée notamment par son interprète Schmitt, démontre le contraire. La trahison d'un de ses plus proches partisans, si ce n'est le plus proche, plonge Hitler les jours suivants dans un état profondément dépressif. Goebbels, dans son journal du 13 mai, le décrit comme étant totalement effondré, en larmes. Dans les médias, il faut réagir, préparer un communiqué. Mais quelle explication officielle donner à l'équipée de Hess? Invoquer la folie, comme le suggère sa lettre, revient à reconnaître que le numéro 2 du régime, l'adjoint du Führer, était un malade mental sans que personne ne s'en soit jamais rendu compte. C'est une catastrophe pour Hitler. L'information, finalement diffusée le 12 mai par Radio Munich, en est réduite à invoquer un désordre mental, des hallucinations. Le nom de Rudolf Hess ne doit désormais plus être prononcé en présence d'Adolf Hitler. Il est littéralement effacé et le poste d'adjoint du Führer supprimé. C'est l'habile Martin Bormann qui lui succède comme chef de la chancellerie du parti, fonction qu'il assumera jusqu'à la fin. L'équipée de Hess n'en rend pas moins perplexe les Britanniques. À commencer par le Premier ministre Winston Churchill, qui a été mise au courant en fin de journée par le duc d'Hamilton. Et tout d'abord, cet Allemand est-il réellement un Rudolf Hess? Le duc d'Hamilton le pense, mais ne peut être affirmatif, car il ne l'a croisé que brièvement il y a 5 ans. On fait alors appel à l'ancien premier secrétaire de l'ambassade britannique à Berlin, Ivan Kirkpatrick, qui rencontre Hess dans la nuit du 12 au 13 mai et confirme son identité. En outre, au même moment, la radio allemande a fait état de la disparition de Hess. Il ne peut donc plus y avoir de doute. L'affaire est délicate pour les Britanniques, car les Soviétiques s'interrogent sur l'arrivée en Grande-Bretagne du numéro 2 du régime nazi. Et si c'était le prélude à un accord germano-britannique aux dépens de l'Union soviétique? Churchill a pourtant alerté Staline de l'imminence d'une vaste offensive allemande, mais celui-ci n'en croit rien. Persuadé qu'il s'agit d'une manœuvre d'intoxication britannique pour envenimer les rapports entre l'Union soviétique et l'Allemagne. Et la présence de Rudolf Hess sur le territoire britannique ne fait que conforter sa paranoïa. C'est pourtant méconnaître l'inflexibilité de Churchill. Hess ne rencontrera jamais le roi George VI, ni le Premier ministre, et il n'y aura aucune négociation. Rudolf Hess est traité comme un prisonnier de guerre. D'abord incarcéré à la Tour de Londres, puis dans les centres de détention en Écosse, dans le Surrey et enfin au Pays de Galles. Le choc est rude pour lui et son état psychique se dégrade. Il sombre dans la dépression et se persuade que les Juifs veulent l'hypnotiser pour connaître ses secrets et que les Britanniques veulent l'empoisonner. Hess va même tenter de se suicider à au moins 2 reprises. Mais pour les psychiatres qui l'examinent, il n'est pas fou. En réalité, pour se défendre et tromper ses gardiens et les médecins, il simule à plusieurs reprises des pertes de mémoire. Le déclenchement de l'opération Barbarossa le 22 juin 1941 occupera désormais le devant de la scène et fera rapidement tomber le soufflet de l'affaire Rudolf Hess, que ce soit en Allemagne, en Grande-Bretagne ou en Union soviétique. On n'entendra plus guère parler de Rudolf Hess jusqu'à la fin de la guerre. Car après la capitulation de l'Allemagne en mai 1945, Hess n'est plus un simple prisonnier de guerre, mais un criminel de guerre, qui à partir du 20 novembre 1945 doit répondre de ses actes devant le tribunal militaire international de Nuremberg, en compagnie des dirigeants nazis qui n'ont pas échappé à la justice en se donnant la mort. Rudolf Hess y est accusé de complot et conspiration, de crimes contre la paix, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mais il donne l'impression d'être absent de son procès, jouant à nouveau à l'amnésique. Pour lui, tout cela est une farce, un spectacle, pour reprendre les mots qu'il emploie dans ses lettres à son épouse. Le 1er octobre 1946, le jugement tombe. Hess est déclaré coupable de complot et conspiration et de crimes contre la paix, mais il est acquitté des deux autres chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Il est condamné à la prison à vie. Il va désormais passer les 41 dernières années de sa vie dans la prison de Spandau à Berlin, située dans ce qui était alors le secteur britannique de la ville. Il n'est plus que le détenu numéro 7. Il n'a guère de contact avec les 6 autres condamnés comme lui à des peines d'emprisonnement, si ce n'est avec Albert Speer. Au cours des années qui suivent, ces détenus sont successivement libérés, soit parce qu'ils ont purgé leur peine, soit pour raisons de santé. En 1966, les 2 derniers détenus de Spandau, Albert Speer et Baldur von Schirach, sortent à leur tour de prison. Hess devient pour les 21 années qui suivent l'unique détenu de Spandau, surveillé par 40 soldats des 4 nations victorieuses, américains, britanniques, français et soviétiques, qui se succèdent à tour de rôle chaque mois. Il est devenu le prisonnier le plus cher de l'histoire. 850 000 marks par an en 1966, à la charge de la République fédérale d'Allemagne. Au cours des années, des demandes de mise en liberté en raison notamment de son grand âge seront présentées, mais se heurteront toujours au refus des autorités soviétiques. Le 17 août 1987, un gardien américain découvre le corps de Rudolf Hess pendu à la poignée d'une fenêtre à l'aide d'un câble électrique. C'était sa 4e et dernière tentative de suicide. Il décède quelques heures plus tard à l'hôpital, à l'âge de 93 ans. Après sa mort, la prison de Spandau est détruite afin qu'elle ne devienne pas un lieu de pèlerinage pour nostalgiques du Troisième Reich. Mais il était inévitable qu'une histoire aussi rocambolesque ne donne pas naissance à des rumeurs complotistes. On a ainsi soutenu que Hess avait été attiré en Écosse par les services secrets britanniques, ou qu'en réalité, l'avion de Hess avait été abattu par les Allemands et que c'était un sosie qui avait été parachuté au-dessus de l'Écosse. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. D'ailleurs, une analyse ADN d'un échantillon de sang prélevé en 1982 sur le prisonnier de Spandau a été récemment comparée avec celui d'un proche parent de Rudolf Hess, et les résultats, je cite, soutiennent fortement l'hypothèse que le prisonnier numéro 7 était bien Rudolf Hess, l'adjoint du Führer du Troisième Reich. La théorie du sosie est, je cite encore, hautement peu probable et donc réfutée. Enfin, on a aussi soutenu que Hess ne s'était pas suicidé et qu'il aurait en réalité été assassiné, toujours par les services secrets britanniques. Même si on peut se demander pourquoi ils auraient attendu plus de 45 ans pour le faire, alors qu'ils auraient pu se débarrasser de Hess avant même le procès de Nuremberg, si on avait craint des révélations gênantes de sa part. Rudolf Hess a d'abord été enterré dans le cimetière de la paroisse protestante de Wunsiedel, en Allemagne. Mais pour mettre fin au rassemblement néo-nazi qui se tenait chaque année à l'anniversaire de sa mort, ses héritiers n'ont pas renouvelé la concession familiale à son échéance en 2011. Ses restes ont été exhumés le 22 juillet et incinérés, les cendres dispersées en mer. Sa tombe a été détruite. Elle portait cette mystérieuse inscription « J'ai osé ». Qu'a-t-il osé ? S'envoler vers les îles britanniques en 1941 pour une chimérique mission de paix ? Ou bien avoir réussi sa quatrième tentative de suicide ? C'est l'ultime mystère de la vie de Rudolf Hess.